Merci d'être venu accueillir avec nous Laurent Mauvignier. J'ai envie de vous présenter, mais en même temps, non, puisque vous êtes venu tellement de fois à la librairie Mola que voilà, enfin, vous êtes quasiment un habitué.
Je suis un habitué et puis un ancien bordelais. Alors, je connaissais la maison avant d'y venir, en tant qu'auteur.
Oui, c'est sûr. Et vous étiez venu notamment la dernière fois pour Autour du Monde, ouais. votre dernier roman, en tout cas. Pour faire une sorte de retour en arrière sur ce que vous aviez fait Autour du Monde, c'était un roman qui était hors frontières, qui allait partout dans le monde, justement. Là, d'en continuer, vous posez dans les montagnes kirghizes. Est-ce que c'était une façon pour vous de vous recentrer, de vous poser? Vous avez besoin de ça?
En fait, il se trouve que je pourrais dire qu'à chaque fois que je termine un livre, j'ai un petit moment d'euphorie où je suis très content de ce livre et où j'ai l'impression que c'est génial, c'est formidable et tout ça. Et puis ça dure quelques semaines. Et puis après, on commence à faire les corrections avec l'éditeur et tout ça. Et puis là, je commence à me dire, ouais, mais peut-être que ça, j'aurais pas dû le faire comme ça. Et puis quelques mois après, je me dis qu'il y a vraiment des choses qui vont pas dans le livre. Et puis après, le livre sort, et alors là, je suis dans un état d'angoisse horrible. Et puis je commence toujours à ce moment-là à me dire, ouais, mais en fait, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire ce livre-là plutôt que ce livre-là. Et donc, il y a toujours quelque chose qui me relance en fait, dans l'écriture en me disant, pour reprendre la fameuse expression de Beckett, la prochaine fois, je raterai mieux. Quoi. Donc, il y avait une chose comme ça. Puis aussi, ce que j'entendais peut-être après des lecteurs qui avaient parfois... Autour du monde, c'est un roman un peu spécial parce que c'est 14 histoires qu'on pourrait lire comme des nouvelles. Pour moi, ce ne sont pas des nouvelles parce que je les ai travaillées de telle manière que elles ont du mal à se déplacer à l'intérieur du livre. C'est vraiment, pour moi, quand même un bloc, donc un roman. Mais c'est vrai qu'on passait d'une histoire à l'autre un peu en glissant dessus. On n'avait pas toujours ce temps de découvrir complètement qui étaient les personnages. Et j'avais un petit peu envie de renouer avec un roman peut-être plus traditionnel dans sa forme, mais qui me... laisse plus de temps avec les personnages, avec quelques personnages, et puis qui me laisse le temps d'essayer de les comprendre mieux, de comprendre leur motivation, d'aller plus en profondeur, en fait. De ce point de vue-là, c'est un projet presque opposé à Autour du Monde, et c'est assez drôle, d'ailleurs, parce que souvent, les gens qui ont beaucoup aimé Autour du Monde aiment moins ce livre-là, et réciproquement. Donc, c'est qu'il y a quelque chose avec ça, mais et à tel point que d'ailleurs quand Autour du Monde est sorti, c'était une rentrée qui était un petit peu difficile pour moi, c'était un moment qui était un petit peu dur par certains aspects, et je me souviens un jour avoir lu un article dans Le Monde qui parlait d'un monsieur qui était parti comme ça au Kirghizistan avec son fils à cheval. Et cette configuration-là, pas plus que ça, en fait, c'était pas vraiment d'ailleurs une histoire, c'était plutôt une configuration. Un homme emmène son fils adolescent, vaguement délinquant, au Kirghizistan à cheval. Cette image-là, cette idée-là, pendant toute la tournée d'Autour du Monde, j'y repensais très régulièrement en me disant « mais c'est quand même bien de tout larguer, il est bien cet homme, s'il a raison, il faut faire ça, il faut être capable des fois de prendre des décisions comme ça ». Alors évidemment, ça implique d'avoir un peu d'argent, ça implique certaines choses, mais du coup j'ai commencé à penser à ça, et puis à prendre des petites notes sur ça, à me dire « tiens, les chevaux, le Kirghizistan ». Qu'est-ce que c'est ? Et du coup, j'ai eu envie d'un roman d'aventure, presque. Et puis, le livre a commencé à naître, comme ça, de fil en aiguille. Quoi.
Donc, en fait, c'est un projet qui existe dans votre tête depuis longtemps. Puisque, enfin, si date du moment où vous écriviez Autour du Monde ?
En fait, non, moi, je trouve ça assez court, finalement, parce que 2 ans, ça peut... Moi, il y a des romans qui m'ont pris beaucoup plus de temps que ça, et même parfois des livres... par exemple, au mois d'octobre, j'ai une pièce de théâtre qui sort, qui est vraiment minuscule, elle fait 40 pages. Ça fait plus de 3 ans Plus de 3 ans que je suis dessus et que à la fin il n'y a que 40 pages. On a l'impression que ça a été écrit rapidement, mais pour moi c'est le même effort qu'un roman. Vraiment, chaque texte sur ça est complètement différent, demande et nécessite un effort à la fois aussi fort, mais à chaque fois particulier, quoi. Donc 2 ans, non, pour un roman, c'est pas très long. Souvent, d'ailleurs, le moment d'écriture est pas forcément le plus long. Ce qui est souvent le plus long, c'est toute la gestation, comment il mûrit en vous, comment d'un seul coup ça devient indispensable de l'écrire, en fait. Comment on peut plus faire marche arrière, ça peut prendre du temps. L'écriture est pas forcément la chose la plus longue, en fait.
Alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vais juste faire une petite précision. Donc c'est que Laurent Mauvignier nous emmène faire une grande chevauchée donc dans les montagnes kirghizes. C'est très cinématographique, en fait. On les voit, ces montagnes. Comment vous avez fait vos recherches? Vous y êtes rendu sur des photos, sur des vidéos peut-être?
Je ne suis pas du tout... moi, prendre l'avion, tout ça, ça me stresse. Et puis, en fait, à chaque fois, je repense à une histoire dans À rebours, le roman de Huysmans. Ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais adolescent, ça, quand j'avais lu ça. Le personnage principal des Esseintes devait aller en Angleterre. Et alors, il va jusqu'à la gare du Nord, à Paris. Et puis, bon, il est un peu en avance. Et il va au buffet de la gare, je crois. Et puis autour de lui, il y a plein d'Anglais qui veulent qu'il rentre chez eux, quoi. Et donc, il se contente de fermer les yeux, et puis il rentre chez lui. Et en fait, moi, je me sens assez proche de cette position-là. J'ai l'impression... À chaque fois que j'ai fait des voyages, j'ai trouvé ça très, très bien. Mais au fond, ça ne m'a pas apporté grand-chose par rapport à l'idée que je m'en faisais. Et alors, c'est peut-être lié au travail... de romancier, peut-être du rapport à la fiction, ou même du rap. Moi, je passe beaucoup de temps à essayer de... Comme je me dis que je ne sais pas quels sont ces lieux, que je ne les connais pas, je passe beaucoup de temps à les imaginer, mais dans le sens de me les fabriquer en images, quoi, vraiment de me les figurer. Et j'essaie d'être, au moment de les écrire et même avant, de les ressentir, de ressentir les personnages, de ressentir les situations... De me dire, ou de faire parfois appel à des souvenirs, mais très très loin. La dernière fois que j'ai vu un cheval, je devais avoir 11 ans, quoi. Et par contre, je me souviens très très bien de cette sensation, de la hauteur de cet animal. Et c'est plutôt, par exemple, des choses comme ça. J'essaie de m'accrocher à ça, à des bribes comme ça, et de me dire, qu'est-ce que ça doit être comme sensation? Sinon, je me sens pas du tout assez fort retraverser des expériences comme ça, parce que je suis sûr que ça m'éloignerait de mon livre, en fait. J'ai l'impression que si j'allais dans les... C'est pas du tout, moi je fais pas du tout des livres, ni de témoignages, ni des récits comme on peut souvent lire des récits de voyageurs. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, c'est vraiment pour ramener ça à une structure romanesque, à raconter une histoire, à construire une histoire. Et donc je vais plutôt lire des livres de gens qui, eux, y sont allés, ou des livres, par exemple, de descriptions de montagnes qui n'ont rien à voir. Je pense à La Grande Peur dans la montagne de Ramus, par exemple. Il y a des descriptions de comme ça, de glaciers, etc. Ça, je prends des bribes, je prends des choses, je peux prendre des anecdotes que je lis dans certains livres, comme ça. Et le fait de les découper, le fait de les réécrire sur des carnets, de reprendre les carnets de notes... Je les réécris sur l'ordinateur et je les transforme comme ça plusieurs fois. Et je fais ma petite cuisine, en fait, quoi. Et au fur et à mesure, en fait, c'est déjà de la fiction. La façon d'extraire comme ça. Et puis après, maintenant, sur Internet, vous avez aussi beaucoup de gens qui font leurs récits de voyage, qui font... Alors, pour faire un parcours, c'est génial, ça. Vous allez sur les forums et tout ça, et vous avez des gens qui vous racontent tout ce qu'ils ont fait. Alors avec ça, vous pouvez bricoler à droite, à gauche... des éléments. Et puis ce qui est étonnant, notamment par exemple dans un pays comme le Kirghizistan, où en fait les gens qui y vont, il y a très très peu de touristes, il y a très peu de structures pour accueillir les gens, mais parmi les touristes, il y a beaucoup de Français, en fait. Et ils y vont curieusement, je ne sais pas pourquoi, en fait, il se trouve que Mais les gens qui y vont, vont d'abord faire du cheval, en fait. C'est vraiment un rapport à la montagne, un rapport à la nature qui est quand même à la fois très... Il faut être quand même en assez bonne condition physique. Et puis apparemment, tous les gens reviennent absolument enchantés de ce pays. Mais vous retrouvez sur Internet, il y a des similitudes, il y a des choses, des épisodes. Et puis c'est vrai que moi, je me posais cette question parce que j'avais la fin de mon livre, je voyais ce que je voulais faire pour la fin, mais je me disais, qu'est-ce qui peut leur arriver là-dedans? Ben, en fait, dans ce genre de récit d'aventure, vous n'avez pas 36 solutions. Vous faites des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres, quelle figure ça peut prendre. Vous avez un rapport au paysage, accueillant ou hostile par moment. Et puis vous avez donc les caprices de la météo. En gros, il n'y a pas. Mais donc j'étais moi très très inquiet en commençant à lire. Je me disais comment je vais faire pour articuler tout ça, pour trouver des solutions qui aient du aussi qui racontent quelque chose par rapport au personnage, par rapport à l'histoire que je veux mettre en œuvre, quoi. Et donc il y a des choses, des figures, des images comme ça, par exemple, sur Internet, vous pouvez voir ça plusieurs fois. Vous avez des gens qui se filment. Qui se font filmer en train d'aller nager dans les lacs sur le cheval, quoi, à cru. Et c'est magnifique à voir. Moi, évidemment, quand je vois des trucs comme ça, je me dis ça, je le veux tout de suite, quoi. Je veux prendre ça parce que c'est trop beau. Il y a une beauté là-dedans qui est incroyable. Et puis qui est incroyable aussi parce qu'elle est. Parce qu'au fond, tous les gens qui vont par là le font. Il y a quelque chose de aussi. De banal en fait en même temps, mais cette banalité elle est en même temps elle a forcément quelque chose de merveilleux, et puis d'un point de vue narratif elle permet énormément de choses, parce que je me dis évidemment si la mère par exemple nage comme ça avec son cheval dans le lac, je vais essayer de voir ça par le regard de son fils de Samuel, et réciproquement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir y avoir comme ça dans chaque scène une façon de comment l'un regarde l'autre, en fait, quoi.
Parce que justement, donc, pareil pour ceux qui ne l'auraient pas lu, donc, on est dans les montagnes kirghizes, mais surtout avec deux personnages, Sibyl et Samuel. Sibyl est la mère de Samuel et elle a décidé de l'emmener faire ce voyage parce qu'il est à la dérive et qu'il faut qu'il se reprenne. En tout cas, elle veut lui montrer la vraie vie, peut-être, en tout cas.
Je ne sais pas si on peut dire la vraie vie, mais. En tout cas, peut-être elle veut, elle le sent à la dérive, mais peut-être pas seulement une dérive d'adolescent, comme on peut en connaître comme ça, mais une dérive idéologique, une dérive, enfin, quand même avec des choses très graves, parce que le début du livre, et ça, par exemple, c'était une des images que j'avais aussi. Je vous dis, comme moi, j'ai vécu 6 ans à Bordeaux, et donc je connais très bien la Cano, tout ça, tous ces endroits-là. Et je ne sais pas pourquoi, en commençant ce livre, alors que ça venait plutôt des montagnes kirghizes et tout ça, j'avais une image, c'était la route de la Cano le matin très tôt. Et j'avais cette espèce de route droite comme ça, et j'avais une idée de scène qui était la voiture qui s'arrête sur le bas-côté avec le gamin qui sort, qui s'engueule avec sa mère, qui repart comme ça, qui veut pas remonter dans la voiture. C'est une route qui peut être quand même dangereuse si on, voilà, si on sort de la voiture. C'est quand même une route très droite où les gens peuvent aller parfois vite. Et j'avais, je sais pas, chanté l'herbe, la rosée, tout ça, enfin, voilà, j'avais toutes ces sensations-là, et donc je voulais les traduire. Et donc l'idée, du coup, c'est, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est qu'elle aille le chercher au commissariat. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme histoire? Vous savez, moi, des fois, je pars sur des trucs comme ça. Moi, un petit grain de café, d'un seul coup, je remonte jusqu'à l'assassinat qui nous conduit à ce grain de café qui est là. Ça, c'est, moi, c'est, voilà. Mais je pense que je suis pas le seul romancier comme ça. Je pense que c'est même à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Et donc, il y avait tout un cheminement comme ça. Et pour moi, c'était important que la dérive de cet adolescent soit aussi liée à son rapport aux autres, et notamment son rapport aux femmes. Parce qu'il y a tout cet enjeu dans son rapport un peu compliqué avec sa mère, qui est de voir que sa mère est, j'allais dire, ce qui est absurde évidemment, mais enfin qui a du sens en l'occurrence, que sa mère est aussi une femme. Et ça, et comme lui, un adolescent est aussi un homme en devenir. Mais il y avait cette figure-là qui m'intéressait, c'est que ces deux personnages, dans la façon dont ils se regardent, on a une mère et un adolescent, c'est-à-dire deux figures qui sont assez vite clichées dans l'esprit des gens. C'est-à-dire, lui ne voit pas que sa mère est une femme, qu'elle a eu une vie avant lui, que les gens ne sont pas que ce moment qu'on leur donne comme ça dans la vie. Comme lui, un adolescent, vous savez, un adolescent, c'est toujours très cliché, et pour un romancier, par exemple, ou en fiction en général, d'ailleurs au cinéma, ça se voit facilement, c'est très, très difficile à décrire, parce que c'est souvent très cliché. C'est-à-dire, c'est l'adolescent, on va le faire, et comme ça, il se tient mal, il a ses écouteurs, et puis voilà, quoi. À la fois, ce cliché, il existe, donc il faut bien en faire quelque chose, il ne faut pas faire comme s'il n'existait pas, mais en même temps, ce qui est fort, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui cherche à s'exprimer, quelqu'un qui cherche à se singulariser, et pour moi, tout le travail consiste à travers la figure stéréotypée de ce type de personnage, essayer d'aller chercher cette personne en devenir. Et c'est pareil pour la mère, pareil pour Sibylle, et ça, c'est le fils qui le découvre en même temps que le lecteur, et en même temps que moi aussi, quand j'écrivais le livre, c'est de se dire, ben, au début, on a une femme comme ça, on se dit, bon, c'est une mère dépressive, 45-50 ans, qui a tout raté, qui a l'air complètement une naufragée, comme lui est naufragé aussi, quoi. Et au fur et à mesure, tout le travail du roman, pour moi, consiste à essayer de dire, mais cette femme, elle a aussi une jeunesse, et sa jeunesse, c'est pas ça qu'elle lui promettait comme vie, et que, contrairement à ce que pense son ex-mari, on n'est peut-être pas figé, on n'est peut-être pas que ce que l'on est comme ça, a priori ou par préjugé dans le regard des autres. Peut-être qu'il y a quelqu'un en nous qui est différent de ça. Et moi, le roman, dans ce roman-là en particulier, mais je pense dans le roman en général, et s'il a une fonction politique, pour moi, c'est celle-là, ce serait celle-là, d'essayer d'aller au-delà des préjugés et des clichés qu'on a sur les uns et les autres, qui serait ce travail de déchiffrage, en fait, des gens et des personnages, pour essayer de dépasser les archétypes, les panoplies dans lesquelles on fait tout ça dans notre vie, par exemple. Là, par exemple, moi, je suis en train de jouer l'écrivain, vous jouez la commentatrice, comme ça. Mais en fait, en même temps, j'espère qu'il y a des humains derrière, quoi, vous voyez. Et pour moi, c'est ça, le travail, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi l'histoire qui fait qu'on peut être là, maintenant, à se parler? Qu'est-ce qu'on a vécu avant? Pourquoi, d'un seul coup, ce moment-là, tout de suite, pourquoi ce moment-là, il est possible? Qu'est-ce qui le rend possible? Quelle histoire fait qu'on écrit des livres, qu'on en lit, qu'est-ce qui fait qu'on est naufragé dans sa propre vie, à quel moment ça a raté, qu'est-ce qu'on transmet aux autres, qu'est-ce qu'on devient là-dedans. Enfin, pour moi, il y a vraiment cette question. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le personnage féminin s'appelle Sibylle. Je l'ai appelé très vite comme ça, je ne savais pas pourquoi. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais au fond, si, c'est parce que ce personnage, pour moi, il s'agit de le déchiffrer. Et en fait, le message qu'elle me donne au début est absolument sibyllin. Et je me dis, tout le travail va être de démêler ça et de la rendre visible, en fait.
Voilà. Je vais revenir sur beaucoup de choses que vous avez dites, notamment voilà, ce terme de cliché, effectivement, parce que quand vous étiez venu la dernière fois, vous nous aviez dit justement qu'on vous reprochait beaucoup. Ouais. D'utiliser dans vos romans des personnages clichés. Et là, c'est vrai, comme vous le disiez, on a ce personnage, cette mère qui est un peu dépressive, qui se laisse aller devant la télé à regarder des séries américaines, à fumer cigarette sur cigarette, ce jeune homme qui est un peu à la dérive, en marge aussi, il s'habille d'une façon quand même assez particulière, il a des amis assez particuliers. Est-ce que c'était pour vous... Est-ce que c'était peut-être faire un pied de nez par rapport à ce que vous disiez la dernière fois, ou vous suivez juste vraiment votre travail, on va dire, ou votre inspiration d'écrivain ?
En fait, je peux, à chaque fois que j'essaie de faire autre chose, de toute façon, je m'aperçois que ça marche jamais. Je reviens toujours à mon truc. Donc même si... Puis, vous savez, une fois, j'avais entendu Pénac à la télévision dire un truc qui m'est resté vraiment marqué comme quelque chose d'assez important, de très drôle et d'assez important, qui disait il y a deux types de lecteurs, il y a ceux qui trouvent que c'était mieux avant et puis ceux qui trouvent que vous faites toujours le même livre. Et en fait, c'est finalement assez vrai, donc du coup, l'auteur n'a qu'une seule solution, c'est suivre son chemin tranquillement, et puis voilà quoi. Et puis, de toute façon, même si je voulais faire autre chose, pour moi, se pose toujours la question à un moment, peut-être parce que j'ai vu beaucoup de films, que j'aime beaucoup le cinéma, mais cette question du cliché, elle est importante parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où chacun se présente d'abord comme une image dans le regard des autres. Avant, on ne sait pas ce que c'est que tout le monde aujourd'hui a cette tentation de vouloir retourner vers, d'aller vers les choses vraies. Cette période rétro, bio, etc., qui est vraiment un symptôme. D'une recherche de vérité, d'un désir peut-être de vérité. Mais même ça, aujourd'hui, est complètement récupéré ou standardisé par les médias. L'autre fois, je voyais, par exemple, j'étais à Paris, dans le métro, je voyais une image complètement idiote sur ça. C'est-à-dire, il y avait une publicité pour une... Je ne sais plus si c'était pour une banque ou je ne sais plus. Où il y avait une jeune femme qui était dans un jardin. Ah oui, c'était ça. C'était pour emprunter de l'argent pour acheter une maison avec un jardin pour pouvoir cultiver bio, quoi, pour manger sain, etc. Sauf que vous voyez la maison et vous voyez son grand jardin comme ça. Vous voyez la fille, mais vous... En fait, on imaginait complètement la scène de la préparation où ils lui mettent des fausses bottes, où elle est ridicule avec son panier qui visiblement lui appartient pas. On n'y croit pas 30 secondes. Je me disais, mais c'est curieux, pourquoi ils font pas ça avec des gens qui vivraient vraiment là? Pourquoi il faut passer par la fabrication d'un cliché, en fait? Et sauf que, moi, quand je vois une image comme ça, je me dis, tiens, mais... cette fille, elle est probablement actrice ou je sais pas quoi. Après, elle rentre chez elle en métro et en fait, elle habite pas dans une maison à la campagne, elle habite dans un petit deux pièces à Montreuil ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et là, moi, ça commence à m'intéresser. À partir de là, ça commence à m'intéresser parce que je me dis, mais tiens, par exemple, qui est cette fille qui fait ce truc-là, qui est voilà. Et il y a ce décalage-là parce qu'on est toujours aujourd'hui. Mais dès l'enfance, vous voyez ça, dès tout petit, le rapport aux uns aux autres se construit vraiment sur des archétypes, sur des stéréotypes, et très bien. Et puis le cinéma regorge de ça, les enfants voient ça très petit, les bons, les méchants, les ceci, les cela. Et pour moi, le roman, c'est vraiment l'art qui prend le temps d'essayer de décortiquer ça pour trouver derrière toutes ces panoplies, toutes ces images préfabriquées, pas forcément la vérité, parce que je ne sais pas si ça existe, mais essayer de déployer un peu la complexité des gens, quoi, essayer de dire, bah, vous voyez, moi dans la vie, je suis comme tout le monde, je, par exemple, j'ai tendance à juger assez vite les gens que je rencontre, à me faire des grilles comme ça, de catégories assez expéditives, hein, Et c'est vrai que quand j'écris, je fais exactement le contraire, parce que je me dis, mais non, peut-être les gens ne sont pas ce qu'ils nous montrent. Les gens ne sont pas... Alors, je sais qu'aussi, parfois, il faut se méfier des premières impressions, elles sont souvent bonnes, mais parfois pas. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le temps d'aller à la rencontre d'une personne qui serait cachée derrière ce... Il y a ça dans un film de Duras, je crois que c'est dans Nathalie Granger. Il y a ce truc où Depardieu vient vendre une machine à laver. Et les deux femmes, dont Jeanne Moreau, le regardent comme ça. Et puis elle lui demande, d'accord, c'est bien votre machine à laver, mais sinon, vous êtes qui? Et lui ne sait pas répondre à ça. Et il répond, oui, mais voilà. Et en fait, il est représentant de commerce, mais elle lui demande, où est son être là-dedans, quoi? Et pour moi, cette question-là, elle est vraiment essentielle. Et elle est essentielle... dans l'art et dans le roman en particulier.
Et c'est vrai que là, notamment dans le roman, enfin, le cliché, vous finissez par le dépasser, puisque le jeune Samuel qui a fait une très très grosse bêtise, effectivement, si on voulait poursuivre dans le cliché, sa mère aurait pu tout simplement l'envoyer en internat ou je ne sais pas, ou l'enfermer chez eux. Ou... Et pourtant, vous les emmenez loin, au bout du monde, sur un cheval.
Oui, mais ça, pour moi, je me dis, bon, ben, après tout, c'est possible, cette histoire-là, elle est possible. Puis, d'une certaine manière, elle a existé, puisque je vous dis, ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans le journal qu'un homme a fait. Je crois d'ailleurs qu'il a publié un témoignage de ça, qui s'appelle « Dans les pas du fils ». Mais c'est vrai que là, pour moi, là où le roman devient différent de ça, c'est qu'il va chercher à déconstruire les préjugés. C'est plus ça, en fait, qui m'intéresse, finalement. Et puis aussi à parler de quelque chose qui est toujours difficile dans un livre. Enfin, moi, qui a toujours été mon vrai problème dans le rapport des personnages entre eux, c'est la question de l'amour. Que ce soit l'amour filial ou l'amour ou le désir aussi, mais ou l'amour d'un homme pour une femme, ou cette question de comment on cherche l'autre aussi, comment on se cherche soi, mais comment on cherche l'autre. Et là, dans cette question, dans ce roman-là, il y a cette question de l'amour filial. Comment un adolescent va peut-être à un moment découvrir qu'en fait sa mère n'est pas que cette conne qui l'emmerde tous les matins à aller à l'école, à faire ceci, à faire cela, mais qu'elle est aussi une femme, qu'elle est probablement belle, en tout cas qu'elle est probablement belle dans le regard des hommes. Et ça, c'est quand même une découverte. C'est un moment, c'est comme si d'un seul coup, il allait apprendre à voir sa mère. Mais pour moi, ça, c'est une question centrale, comme elle l'est avec les chevaux, où d'un seul coup, il va aller vers les chevaux, il partage quelque chose aussi avec eux et avec la nature. Et pour moi, cette question-là, elle est centrale aussi dans le roman, dans ce roman-là, mais dans l'art en général, c'est que dans la vie de tous les jours, non seulement on préjuge très vite des gens qu'on voit, qu'on rencontre, qu'on met dans des boîtes très facilement et dont on les sort pas, mais aussi on a l'occasion d'être énervé par tout un tas de gens qui vous énervent. On a l'occasion d'être énervé et de haïr assez facilement, en fait. Par contre, d'être en empathie, d'aimer, c'est beaucoup plus mystérieux, en fait, et moins banal, et c'est surtout littérairement beaucoup plus dur. Parce que, comme on dit, on ne fait pas forcément de l'art avec des bons sentiments, mais moi, je trouve que c'est justement cette question-là, elle est d'autant plus exigeante, parce que effectivement, c'est très difficile. C'est très difficile de réussir à nommer quelque chose qu'on éprouve tous, pour des êtres, pour nos proches, pour les uns les autres, et qu'on ne sait pas ce que c'est, en fait, ce sentiment-là. Autant c'est très facile de dire que quelqu'un nous a gonflé parce qu'on l'a vu, parce qu'à la gare il vous est passé devant ou je ne sais quoi. Bon, bref. Mais par contre, le sentiment qui nous lie aux gens est beaucoup plus énigmatique. D'abord parce qu'il y a, par exemple, dans l'amour filial comme ça, quelque chose d'inconditionnel qui est complètement miraculeux, quoi. L'amour, c'est un cliché de le dire, une fois encore, ça, mais c'est miraculeux. Alors, c'est un cliché de le dire, mais d'essayer de le retrouver par l'écriture et d'essayer de retrouver la sensation de vérité de ce moment-là, pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'est pas cliché du tout et qui est très, très important.
Quand même.
Bah, c'est pas parce que des choses sont clichés. Moi, je me souviens, par exemple, pour mon deuxième livre, Apprendre à finir, qui a beaucoup de points communs avec celui-ci, qui était un roman, qui était le monologue d'une femme, qui était en train de se séparer de son mari. Et Apprendre à finir, en fait, c'était l'idée d'apprendre à finir une histoire d'amour, à accepter la fin de quelque chose. Dans ce portrait, beaucoup de gens me disaient comme ça, mais quand même, elle parle très bien pour une femme de ménage. Je dis, je sais pas, moi, vous en connaissez beaucoup des femmes de ménage. Vous parlez avec votre femme de ménage, vous êtes femme de ménage, vous savez. Bon, et les gens savent pas trop ça, en fait. Je dis, vous savez, moi, ma mère, elle était femme de ménage, et je crois pas que ses sentiments soient moins dignes que ceux de Racine. Je crois pas. Elle les exprime peut-être pas bien, mais justement, le roman est là pour dire que les sentiments et la sensation qu'on peut éprouver, ça peut être exactement les mêmes, quel que soit notre... C'est aussi, pour moi, le roman, c'est aussi un art qui transfigure, qui, Alors évidemment, on se dit, ouais, c'est quand même très réaliste dans le décor et tout ça, mais ce qui se dit à l'intérieur de ça, il y a une façon de l'élever, d'essayer de l'emmener quelque part, mais quelque part où en réalité c'est déjà, mais il s'agit de montrer ça. Pour moi, c'est très important. Et dans ce roman, dans Apprendre à finir, par exemple, c'est vrai que la question de la banalité de ce qui se vivait, c'était un livre où j'avais essayé de faire le moins d'événements possible, quelque chose d'ultra banal. Mais parce que, vous savez, si il y a 10 ans, vous avez perdu, vous êtes fait simplement, votre plus grand amour vous a quitté, peut-être que ce jour-là, imaginons que ce jour-là, c'était le 11 septembre 2001, l'événement important pour vous, c'est pas les tours, hein. Donc pour moi, c'est aussi cette question-là, comment l'histoire personnelle, l'histoire collective, comment on vit tout ça à une hauteur qui nous déborde, et comment un petit roman prend des histoires quelconques, de gens quelconques, et en fait, ça n'est jamais quelconque. C'est ça pour moi. Le fond du problème, pour moi, il est absolument dans cette idée que la banalité n'existe pas.
Mais surtout qu'aussi, enfin, il y a énormément de justesse dans votre roman, parce que ces personnages, on va les découvrir surtout par des monologues intérieurs, on va imaginer, enfin, ils vont nous raconter ce qu'ils pensent chacun d'eux-mêmes sans se le dire. Et c'est en ça que je trouve, malgré tout, les personnages très très justes, parce que lui, bien évidemment, a beaucoup de ressentiment par rapport à sa mère, parce que. J'imagine qu'elle le contraint, voilà, à ranger sa chambre, voilà, et il part avec ça, et il ne part pas avec une femme. Et elle voit plutôt le fils qu'il est en train, malheureusement, de devenir, mais elle n'imagine pas celui qu'il est, en fait, à l'intérieur. Et c'est en ça que je me dis, enfin, la construction de votre roman, je ne sais pas comment vous l'avez imaginé, mais ce qui ressort, en tout cas, moi, ce qui est ressorti après ma lecture, c'est, mais c'est juste. C'est juste parce qu'on a deux personnages qui sont au bout du monde, qui sont sur deux chevaux et qui pourraient peut-être même presque s'ennuyer malgré tout le décor.
Qui s'ennuie sans doute par moment d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était. Mais c'est marrant parce que finalement dans tous mes livres, il y a toujours cette espèce de. Il n'y a jamais vraiment un personnage seul en fait. Et pour moi, le personnage peut-être le plus important finalement, c'est le lecteur là-dedans parce qu'il y a une façon. Effectivement, le lecteur a vraiment les clés. Du livre, c'est-à-dire qu'il sait plus de choses que les personnages, en tout cas. Il y a un moment où il y a des liens qui se font entre eux, dont eux n'ont pas forcément conscience, mais que le lecteur peut déduire au fur et à mesure. Donc ça nous donne comme ça ce qui est une recette ancestrale vraiment de la tragédie, quoi. De comment on connaît tout avant que les choses, comment on sait absolument tout ce qui va se passer avant que les choses arrivent. Sauf que là où c'est une sorte d'anti-tragédie, c'est que ça serait une tragédie sans fatalité en fait, parce que finalement tout doit aller quand même. J'ai vraiment travaillé le livre comme une sorte de suspense comme ça, qui va, c'est vraiment un roman d'aventure qui peut se lire comme ça, qui avance. Et en même temps, pour moi, la fin devait revenir à un peu tordre le cou de ce qui est attendu, du côté irréconciliable, du côté tout ça. Alors, il me fallait trouver une solution pour le faire. Mais pour moi, du coup, il n'y avait pas d'autre fin possible que celle-là, dans le sens où il s'agissait vraiment de faire que tous ces liens qui sont. Ignorés et su parfois entre eux. D'ailleurs, il y a une communication quand même qui se fait entre les deux personnages à la fin, puisque elle comprend qu'il écoute en fait la même musique qu'elle pouvait écouter quand elle était jeune, et lui, par les carnets qu'elle écrit, va comprendre des choses qu'il ne savait pas en fait. Et donc, ils vont réussir à se parler, mais finalement, c'est par des moyens artistiques en fait, et par la musique et par l'écriture, qu'ils vont en trouver une sorte, mais très timidement et très presque à l'insu de l'autre, en fait, comme ça, de manière très pudique, au fond. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a quelque chose, enfin, pour moi, dans ces deux personnages, en fait, une immense pudeur et une immense c'est pas l'incapacité à aimer l'autre, mais une fois encore, une immense, ce, à la fois de tendresse, mais comme s'ils étaient sidérés de leur propre tendresse pour l'autre, en fait. Comme s'ils ne savaient pas du tout par quel bout la prendre, et probablement ils ne le savent pas, parce qu'eux-mêmes sont tellement débordés par leur propre difficulté à être, leurs propres problèmes à régler, leurs propres histoires, leurs propres, et Dieu sait qu'ils en ont pour le coup, parce que Sybille arrive avec un parcours quand même très très difficile, très chargé, très très compliqué, et elle découvre au fur et à mesure que peut-être elle a transmis à son fils pas seulement les peut-être même le contraire de ce qu'elle aurait voulu, en fait.
Alors, je reviens sur ce que vous avez dit un peu plus tôt sur la découverte, en fait, de ces deux personnages, l'un l'autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de portraits très, très attachants, très, vraiment très émouvants, en tout cas. Notamment, ce qui m'est resté, c'est elle s'éclaboussant dans un lac en riant à gorge déployée, et lui qui la voit vraiment comme elle est, comme une femme. Et elle qui découvre effectivement qu'il écoute David Bowie, la même chanson qu'elle écoutait quand elle avait 20 ans. C'est cette découverte, en fait, ce moment où elle découvre que son fils effectivement va devenir un homme, et lui qu'elle a toujours été une femme et pas simplement que sa mère. C'est comment dire c'est l'instant propice. C'est parce qu'ils ils en sont là dans leur relation.
Ils en sont là dans leur relation, puis ils sont à un moment du livre aussi. Vous savez, justement, en me basant sur plein de récits de voyage, je me disais, le problème des récits de voyage, et la difficulté pour un roman comme ça, c'est que les récits de voyage, c'est une suite d'épisodes. Les gens disent, bon, voilà, on a fait ça, puis après on a fait ça. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément reliées entre elles. On pourrait enlever un épisode, par exemple. Et là, moi, je voulais justement qu'on... pour moi, l'art du romancier, c'est de faire qu'à la fin, on ne puisse pas enlever un épisode. C'est que tout se tient. Et donc, s'il y a cette histoire du lac, c'est parce qu'avant, il y a eu cette histoire du bourbier, du marécage dans lequel, etc. Et entre les deux, il y a ce moment où, après avoir échappé à quelque chose qui aurait peut-être pu aller jusqu'à la mort, je ne sais pas, en tout cas, quelque chose qui les mettait en danger, cette histoire de marécage, il y avait cette idée... À un moment, c'est elle qui lave tout, parce que tout est sale, tout pue. Elle est obligée de laver les choses, et lui, il ne lève pas le petit doigt. Et donc, dans ce moment-là, on se retrouve vraiment, ils sont comme à la maison, c'est-à-dire, maman fait la vaisselle, voyez. Et elle, elle est là avec les tâches, et elle a honte. C'est clair qu'elle a honte, parce qu'elle les a mis en danger, parce qu'elle a encore fait une erreur, et donc elle justifie à ses propres yeux d'avoir raté sa vie, d'avoir tout raté, etc. Et c'est pour ça que la scène du lac, après, devient extrêmement importante, parce que Noni, ben non, justement, ils ont besoin un petit peu de se décrasser, et là, il y a quelque chose qui se passe, qui aurait pu ne pas arriver, en fait. Mais à ce moment-là, lui qui est... peut-être quelques heures avant, qui est vraiment dans la haine et dans la colère totale contre elle, en disant « Papa a raison, c'est vraiment une folle. » À ce moment-là, il se dit « Mais c'est une folle, c'est vrai, mais peut-être que c'est bien. Peut-être qu'en fait, ma mère, elle est quand même extraordinaire, quand même. » Parce que il se dit « Mais aucun de mes copains ne vivrait un truc pareil, quoi. Ma mère est peut-être complètement cinglée, mais cette folie-là, en même temps, elle est belle. » Et ce moment-là, c'est quelque chose en lui s'ouvre un peu, qu'il va... peut-être refermé après. Mais moi, c'était important pour moi, cette idée de comment l'amour ou comment les choses varient comme ça, de la perception qu'on a de quelqu'un, de nos propres sentiments peuvent évoluer en quelques heures, simplement parce qu'un geste, simplement parce qu'un regard, simplement parce qu'une situation va transformer. Et elle, à ce moment-là, au lieu de s'enfoncer dans quelque chose qui aurait pu complètement annuler le truc, elle a cette idée d'aller se baigner avec le cheval dans le lac. Et c'est vrai que ça change tout, et c'est un acte absolument irréversible dans quelque chose de profondément positif, dans une démarche qui est profondément de l'ordre de la vie et que lui perçoit, quoi. Et là, à ce moment-là, s'ouvre quelque chose pour lui, mais au fond aussi pour elle. Ouais.
Alors j'ai Une autre question, mais alors peut-être que je me fourvoie complètement, parce que pendant leur voyage, ils ont chacun leur activité, et elle notamment écrit dans un journal, un journal que lui va finir par lire. Donc c'est vrai qu'elle se présente, elle, en tant qu'auteur, lui en tant que lecteur. Je me demandais si vous n'étiez pas un double de Sibylle, ou si Sibylle plutôt n'était pas votre double.
J'ai eu un peu plus de chance quand même que Sibylle, je crois, dans ma vie quand même. Enfin, pour l'instant, je crois que c'était toi. C'est vrai que Sibylle, je me sens très proche d'elle. C'est drôle comment naissent les personnages dans un livre, parce qu'il y a des livres, je ne vais pas dire que les personnages vous indiffèrent, mais ils vous accompagnent, mais quand même, vous avez une maîtrise de comment vous les construisez. Et puis parfois, il y en a d'autres qui s'imposent à vous. Enfin, c'est pareil, c'est encore un cliché de dire ça. Mais en même temps, c'est assez vrai. Il y a des personnages qui s'épanouissent, qui vous accompagnent de telle manière que vous vivez vraiment avec eux, quoi. Alors, évidemment, j'ai une sensation presque de fraternité avec elle, parce que c'est un personnage qui a à peu près mon âge, à qui j'ai prêté beaucoup de choses que moi j'avais pu vivre dans son parcours. J'ai jamais voulu être chirurgien, ou alors peut-être que quand j'avais 5 ans, peut-être, je sais pas, je m'en rappelle plus. Mais enfin, en tout cas, ça n'a jamais été un rêve pour moi. Mais ce rapport à l'écriture et par exemple à la politique. Alors il y a des choses en fait qui ont fait que je me suis servi d'une partie de mon parcours. Et c'est des trucs, parfois, je vous dis, c'est comme l'histoire du grain de café. Il y a des choses complètement bêtes. Il se trouve que quand j'étais étudiant à Tours, le soir, j'allais travailler dans une station-service. Et je travaillais dans une station mobile. Et on se souvient que la station mobile, leur logo, c'était un Pégase rouge sur fond blanc, comme ça, dans mon souvenir. Du coup, je suis allé voir sur Internet, station mobile et tout ça. C'était drôle. Et c'était drôle parce que du coup, cette histoire-là me ramenait, évidemment. J'ai repensé à ça parce que je me disais, il faut que j'essaie d'imaginer son parcours. Et comme il y avait ses chevaux, et il y a un truc avec les chevaux, les chevaux kirghizes, c'est que souvent, on dit qu'il y a une légende un petit peu des chevaux rouges. Parce qu'on leur prêtait, les Chinois notamment, leur prêtaient cette capacité à transpirer le sang, en fait. Donc on disait qu'ils étaient rouges. Il y a toute une histoire comme ça, et donc c'est aussi des chevaux pour lesquels il y a eu beaucoup de guerres autour de ces chevaux. C'est des chevaux très particuliers, très rapides, très tenaces. Et donc par exemple les Chinois vraiment ont vraiment voulu annexer cette partie-là parce que c'était comme une arme de guerre, en fait. Et toutes les légendes après autour du Pégase, du cheval ailé, etc., du dragon, toutes ces choses-là, moi, ça me nourrissait. Je me disais, pour des scènes de rêve, j'avais envie qu'il y ait des choses comme ça. Et puis la question de flashback, je me dis, mais tout ça est lié, il faut trouver un point commun. Et le point commun, c'est le cheval, dans ce que ça a aussi à la fois de très concret, de très réaliste, et en même temps de complètement onirique, de complètement... de complètement fantasmé. Et ça m'a ramené à cette histoire donc de Tours et de ma station-service, hein, que je revois très bien, avec le petit bois derrière et tout ça. Mais déjà, en soi, c'était un roman, parce qu'en fait, j'avais remplacé quelqu'un qui s'était fait assassiner dans la station-service. Donc, vous voyez, c'était déjà... ça marque un peu déjà. Donc, tous les soirs, quand je fermais, je faisais pas le malin. Je me souviens très bien de ça. Et je me souviens des gens que je croisais. Il y avait une petite épicerie. Et là, tout le truc, en fait, on peut même dire que je suis dans le roman, d'ailleurs, d'une certaine manière, puisqu'elle vient parler avec un type qui est dans l'épicerie. En fait, le type, pour le coup, ce serait moi, quoi. Mais je ne l'ai pas rencontré, Sibylle. Mais c'est vrai que, du coup, je lui ai donné beaucoup de... C'est la première fois que je me permets de situer un de mes personnages dans les lieux que moi, j'ai connus, donc notamment à Tours, quand j'étais étudiant. Les bars, etc. Et puis avec ce parcours politique un petit peu, pour le coup, voilà, je peux dire presque autobiographique, c'est vrai, quoi. Avec plein de gens autour de moi qui étaient très très militants. Moi j'étais un peu suiveur là-dedans, et un peu comme Sibylle peut être. un peu suiveur parce que au fond les gens militent sur plein de causes etc. Mais moi j'écrivais en cachette et j'ai toujours eu la sensation que L'Arme absolue c'était le roman que je ferais un jour quoi. Et j'ai encore cette sensation, mais j'ai la sensation que j'ai toujours pas écrit ce roman qui serait L'Arme absolue, puisque une fois qu'il est fait, ça rentre dans les choses relatives du monde, quoi, contingence. Donc bon, donc moins importante. Mais et du coup, c'est vrai que cette proximité-là a fait que je me sens très proche d'elle, et puis qu'elle est venue comme ça me chercher aussi. J'avais l'impression que qu'à travers elle, quelque chose, pas seulement de moi, mais de peut-être de ma génération, des questions que je me pose. Mais je repensais du coup à plein de choses, notamment, bah, il y avait Bowie, bien sûr, mais je repensais à plein de choses, du genre, je me souviens des grandes manifs anti-Le Pen, des grands trucs, touche pas à mon pote, etc. Et il y a quelques mois, je me suis posé cette question-là parce que j'avais vu cette étude ou ce sondage qui disait que, je sais plus, 30% ou 40%, je sais plus, des moins de 24 ans étaient attirés par les thèses d'extrême droite. Et je me disais que forcément, dans ces adolescents-là, qui sont paumés, qui ont leurs difficultés, etc., forcément, dans ces adolescents-là, il y a des gens dont les parents ont manifesté pour Touche pas à mon pote, pour SOS Racisme, contre Le Pen, contre ce qui s'était passé à Carpentras, etc. Et je me dis, quand même, qu'est-ce qui s'est passé pour que. Qu'on soit passé de ces questions-là à une époque qui s'est complètement inversée dans son rapport au monde, quoi, dans son rapport aux autres et tout ça. Et je me disais que dans le rapport générationnel aussi entre Sibyl et Samuel, il y avait aussi forcément cette question-là, et je ne pouvais pas faire l'impasse là-dessus. Donc le parcours de Sibyl, moi, il me ramenait aussi à ces questions-là, pour le coup, des questions personnelles. Et puis, à une autre question que je me pose toujours dans une fiction. Vous savez, il y a des choses, vous voyez, il y a beaucoup de scènes de repas dans les fictions, dans les romans et dans le cinéma français. Alors moi, j'adore ça, c'est formidable. Mais moi, il y a plein de questions, mais complètement idiotes, hein, que je me pose. J'ose même pas les dire en fait aux gens. Mais par exemple, vous avez une scène de repas, ils sont en train de manger, et puis, je sais pas, alors on sent bien que l'enjeu, ce n'est pas le repas, c'est ce qui est en train de se dire ou de ne pas se dire. Et moi, il y a forcément un moment, je me dis, mais d'abord, qu'est-ce qu'ils sont en train de manger? Et puis, moi, je ne sais jamais ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Je me dis, le personnage, ça se trouve, il n'aime pas ça, en fait. Là, peut-être qu'ils sont en train de manger du poulet, mais l'autre, il n'aime pas le poulet, ou je sais pas quoi. Et moi, j'aimerais qu'on me dise ça, j'aimerais savoir ça. Parce qu'une fois encore, je trouve que c'est à partir de ces détails-là que ça commence à devenir vrai. Vous voyez, c'est comme quand vous voyez des films, ça c'est un truc qui m'insupporte, vous voyez des soldats, comme ça, ils vont comme ça, puis en fait, les fringues, vous voyez qu'ils viennent de les mettre, ils sont tout propres encore, ça ne va pas, quoi. Et ça, moi, c'est le genre de détail, ça me rend fou. Et une chose, par exemple, qui me rend absolument cinglé, vous pouvez voir n'importe quel film, n'importe quel livre. Alors que dans notre vie, c'est hyper clivant, je ne sais jamais s'ils sont de gauche ou de droite. Jamais. Et elle dit, alors que quand même, mais dans notre vie, c'est quand même hyper structurant, quand même. Mais je vois bien pourquoi les gens font ça. Si leur personnage est de gauche, ils veulent pas se griller la moitié de la population, etc. Je vois très bien pourquoi on fait ça. On veut que le personnage devienne. Puisse toucher tout le monde. Mais rassembleur, oui. Mais en même temps, pour moi, il ne sera pas rassembleur, il sera juste faux. Il sera artificiel, il sera. Non, il faut essayer de donner un petit peu d'épaisseur aux gens. Et qui dit épaisseur, c'est aussi prendre le risque voilà, d'une. Ces personnages et des positions. Ça ne veut pas dire. En plus, pour moi, on peut tout à fait faire un personnage. Si on est assez sérieux dans son travail, je pense qu'on peut tout à fait faire. Qu'un personnage de gauche puisse toucher des gens de droite et réciproquement. Enfin, on n'est pas complètement abruti quand même. Les gens sont quand même capables de, à la fois de s'identifier, d'avoir de l'empathie et à la fois de faire quand même. Justement, c'est un des enjeux du roman de comprendre on peut apprécier et accepter l'autre à partir du moment où on le reconnaît comme autre et pas seulement à croire qu'on est en train de toujours de fusionner et d'être dans quelque chose comme ça. Pour moi, ça, c'est aussi une dimension importante. Et c'est pas tant, du coup, de faire de parler de politique ou des choses comme ça, mais c'est d'être dans des éléments qui constituent complètement la vie des gens, en fait. En tout cas, moi, je sais que pour ma génération, je pense que pour les gens plus âgés, c'est pareil. Et pour les plus jeunes, c'est peut-être différent, je ne sais pas. On sait qu'il y a eu un moment où les gens ont été très désengagés, en fait. Mais quand même, il me semble que c'est une question tellement structurante que c'est très difficile d'en faire l'impasse, parce que c'est aussi comme ça que les gens se sont rencontrés. C'est comme, je veux dire, vous allez dans certains types d'endroits, vous rencontrez un certain type de gens. Les histoires d'amour naissent de ça, les séparations aussi, les enfants naissent de ça. Donc ça, enfin, je veux dire, comment on peut faire l'impasse là-dessus ? Ça ne veut pas dire faire des livres militants, ça veut dire faire des livres qui prennent et qui essaient au maximum de prendre l'ensemble de la vie en compte. Ça, pour moi, c'est important. Ouais.
Du coup, j'aurais 1000 questions encore à vous poser avec ce que vous venez de nous dire, mais je crois que malheureusement, on n'a pas trop le temps, mais je vous en poserai quand même une dernière autour du titre. C'est un seul mot, continuer. Mais continuer comment ? Parce que c'est une évidence ? Parce que c'est un dictat ?
Bah non, dictat quand même pas. Continuer ! Non, j'espère pas. Alors évidemment, il y avait Beckett qui est important dans le livre, mais il y a cette idée de ne pas lâcher prise, en fait. Je suis toujours surpris, moi, quand on me dit que c'est un roman qui finit bien. Certains y voient même un happy end. Quand même, ça me paraît un peu excessif. Un happy end. Happy end. Ouais, je sais que je suis nul en anglais. Je suis nul en anglais, je sais. Merci. Mon accent anglais a encore fait des ravages. Non, mais il y a des gens qui effectivement, ils voient une fin optimiste. Alors, pour moi, je la pose pas du tout comme optimiste ou pessimiste. Et d'ailleurs, j'ai jamais pensé un de mes livres dans ces termes-là. C'est une question que je comprends pas, en fait. C'est comme si on disait, pour moi, il y avait Beckett qui était là, très présent. Beckett et Giacometti, curieusement, qui pour le coup n'est pas un écrivain, mais auquel je pensais beaucoup. C'était, il ne viendrait à personne l'idée de dire que Beckett est un écrivain optimiste. Tout le monde dirait c'est sombre, Beckett, c'est drôle et tout ça, mais c'est très sombre. Bon, pourtant, si on regarde le message de Beckett, si message il y a, c'est un gros mot pour lui, mais enfin, il y a quand même cette idée qui est là, qu'à la fin, même s'il ne reste presque plus rien, même s'il ne reste qu'une bouche, elle parle. Et que même s'il ne reste rien, il y a une confiance, il y a une foi en l'humain et en l'art pour dire ça. Il y a une façon de ne jamais lâcher prise, de tenir bon, de continuer, même s'il ne reste plus rien. Pour moi, c'est pas être optimiste ou quoi que ce soit. On peut appeler ça résister si on veut prendre des grands mots. Quoi. Ce que je voulais pas, pour moi, continuer de ce point de vue-là est plus modeste. C'est plutôt une sorte d'engagement, de vie, qu'évidemment un diktat. Et puis là, dans ce livre, en tout cas, il s'agit ça de poser un désir de vie plus fort que la résignation. Et c'est pas, il y a peut-être quelque chose d'espoir évidemment dedans, mais pour moi c'est quelque chose plutôt organique que psychologique, par exemple. C'est les forces de vie en nous sont, je pense, plus fortes que les alors évidemment aujourd'hui c'est pas très à la mode de dire ça. On est dans une époque du cynisme absolu ou de l'ironie dans le meilleur des cas, mais parfois du cynisme. Et là, c'est vrai que, comme me le faisaient remarquer certains journalistes plus ou moins bien intentionnés, il y a une sorte de naïveté peut-être à rappeler qu'il est bon d'avoir une colonne vertébrale et d'essayer de continuer à marcher. Mais bon, moi, si c'est ça être naïf, je veux bien tous les jours. Je signe tous les jours, sans problème.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Merci à vous.